Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde, c'est international. Une émission que nous réalisons chaque semaine en collaboration avec le quotidien français Le Monde. Beaucoup d'actualités en cette journée du 25 mai, avec des élections qui se déroulent en France ou en Ukraine, avec, vous le verrez, un certain nombre de drames à travers la planète. Nous avons choisi, les rédactions vous restitueront la suite des événements que je mentionne, mais nous avons choisi de revenir sur une tragédie du siècle passé, du XXe siècle, un génocide. Ce génocide, il s'est déroulé au Rwanda, voici tout juste 20 ans. Il était en train donc de marquer l'histoire, faut-il rappeler, 800 000 morts en 100 jours, beaucoup de questions encore qui sont posées aujourd'hui. Et nous recevons l'une des survivantes de ce génocide, Yolande Mukagasana. Merci d'être avec nous, vous êtes rwandaise, vous êtes, je le disais, survivante. Votre famille, vos enfants, votre mari ont été tués dans ce génocide de 800 000 morts. Vous publiez ce livre aujourd'hui, l'ONU et Le chagrin d'une négresse. Beaucoup de questions à vous poser, bien sûr, sur une réconciliation peut-être ou non à l'œuvre, sur la justice, sur la mémoire de ce que vous faites aujourd'hui. Vous étiez infirmière anesthésiste et vous travaillez dans la commission nationale donc sur de lutte contre le génocide. Vous nous direz comment vous œuvrez. Vous êtes aujourd'hui spécialiste également en relations politiques. Vous avez travaillé dans ce domaine. Donc beaucoup de questions que je vous poserai avec Sophie Malibaud de Radio France International et avec Christophe Châtelot du Monde. Peut-être avant de vous retrouver, un rappel de ce qui se passait il y a 20 ans et quelques images pour mieux faire connaissance avec vous.
Yolande Mukagasana vient de ce pays-là, Rwanda, le pays aux mille collines. Une terre lumineuse au cœur de l'Afrique des Grands Lacs, une nature généreuse, une sorte de jardin extraordinaire. On raconte qu'un jour, il y eut une éclipse du soleil qui plongea le pays dans le noir, au moment même où le roi offrait cette terre d'abondance aux colonisateurs. Depuis, on l'appelle aussi le pays hanté.
Au Rwanda, comme en Urundi, on rencontre trois groupes ethniques nettement distincts. Les Batutsi sont la race dominante. Ils sont venus du nord en menant leurs troupeaux en quête de pâturages nouveaux.
Au Rwanda, comme au Burundi, disait la propagande coloniale, les Tutsis sont la race dominante et les autres, les Hutus, des paysans. Pour gouverner, les colons belges adoptèrent la technique du diviser pour mieux régner et accentuèrent la différence entre Tutsi et Hutu. En 1994, 30 ans après la décolonisation, 40 ans exactement après la naissance de Yolande Mukagasana, une lutte pour le pouvoir entre ces deux ethnies principales dégénère en génocide. 800 000 Tutsis sont exterminés à la machette en 100 jours. Parmi les morts, le clan de Yolande Mukagasana. On dit que la mort ne voulait pas d'elle. Toute sa famille va périr. Tous, sauf elle.
Une culpabilité, pourquoi? Parce que vous aviez laissé tuer vos enfants, vous n'auriez pas pu faire autrement.
Des fois, je me dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit à mes enfants, allez quelque part, partez simplement. Et en même temps, je me dis, si j'étais partie, ils auraient rencontré des assassins, et mes filles auraient été violées, parce que c'est ça qui me faisait le plus peur, et c'est ce que les enfants de Rwanda ont vécu, et les femmes.
Yolande Mukagasana passe désormais sa vie à témoigner de celle des morts. Avec ses livres, l'ancienne infirmière anesthésiste tente de panser ses propres plaies en continuant de soulager celles des autres, mais avec le seul remède qui vaille, la vérité.
J'espère que ma vérité ne vous choque pas. Mais si moi je ne dis rien, personne ne va le dire. Je n'ai rien à perdre, car on m'a tout pris en 1994. Ma vie n'est pas une vie, c'est une survie. Je vis plus avec les morts qu'avec les vivants.
Difficile de raconter l'histoire lorsque chacun défend sa vérité. Aujourd'hui, cette écrivaine engagée accuse les Nations Unies et la France de complicité dans le massacre. Dans ses livres, elle reproche en particulier à l'armée française d'avoir soutenu le régime politique d'alors, celui qui organisa le génocide. En France, certains accusent Yolande Mukagasana de défendre la vérité des vainqueurs, celle du président Paul Kagame, d'origine Tutsi comme elle, celui qui a depuis aboli les ethnies, élu en 2000, mais en réalité au pouvoir depuis juillet 1994.
Voilà pour ce rappel des faits qui se déroulaient il y a tout juste 20 ans. Vous publiez donc aujourd'hui, je le disais, L'ONU et le chagrin d'une négresse. On pourrait expliciter chacun des mots de ce titre. Vous revendiquez négresse, c'est une façon de renvoyer certains lecteurs occidentaux à un langage colonial qu'on a retrouvé dans ce peut-être ce rappel de François-Xavier Frelon.
Mais évidemment, vous savez bien que c'est péjoratif. Et si je n'utilise pas ce mot-là, ils ne vont peut-être pas lire. Je voulais les attirer à constater qu'on a compris.
Sophie Malibeau et Christophe Châtelot.
Je voulais vous demander justement, depuis les lendemains du génocide, quel a été votre cheminement interne? Comment est-ce que vous avez fait pour survivre? Par quelles étapes vous êtes peut-être passé intérieurement dans ce cheminement vers la vérité?
Et je ne peux pas dire que j'ai accepté ce qui m'est arrivé. Non, je suis restée dans la révolte. Et parfois, je me demande si ce n'est pas cette révolte-là qui m'a fait vivre. Et d'abord, avant de partir en Belgique, je suis allée sur la fosse commune de mes enfants. Je suis allée leur dire que je suis décidée à poursuivre le chemin de la justice, parce que leur papa, qui était déjà orphelin depuis 1963, n'avait jamais eu de justice.
Il est orphelin parce que lui, ses parents avaient été également tués dans des massacres
de
cette nature.
Ses parents, ses frères, ses sœurs ont été tous massacrés quand il avait 13 ans en 1963,
peut-être
à Noël.
Pardon de vous interrompre, pour reposer la question, pour remettre dans le contexte, le sentiment que l'on a eu, peut-être dans le monde entier, c'est qu'il y a l'attentat contre le président Habyarimana qui déclenche un génocide. Et vous, vous dites, il a commencé bien avant, il était là bien avant, il y avait déjà eu des génocides.
Même avant le 7 avril, aux environs du 5, du 6, j'ai passé la journée à soigner les blessés du génocide. Avril 94. Donc, dire que ça commence déjà en ce moment-là, non, ça c'est la phase finale du génocide qui avait commencé en 1959.
En 1950 ?
59, où il y a eu toujours des massacres, des Tutsis, ces massacres sont restés impunis. On n'avait même pas droit de parler des massacres. On appelait ça le tourbillon.
Le tourbillon.
Et je l'écris dans mon livre. On ne pouvait même pas prononcer. On ne pouvait pas pleurer les nôtres depuis toujours. Alors cette impunité conjuit les assassins. C'était normal qu'ils fassent encore mieux le travail parce que le génocide s'appelait le travail en 94.
Mais donc 59, 94. Vous voyez, vous sentez monter cette haine qui aboutira à ce drame absolu. Comment expliquez-vous que personne ou rien n'ait été fait pour ne pas en arriver là? Qu'est-ce qui a empêché que la communauté internationale se mobilise?
Vous mettez en cause l'ONU.
Et je devrais plutôt poser ces questions-là parce que ce sont toutes les questions que je me pose. Tous les pays occidentaux avaient des ambassades sur place, et les ambassades savaient, étaient au courant. Et si on voulait aller plus loin, même le gouvernement intermédiaire a été intronisé, si je peux l'appeler comme ça, à l'ambassade de France. Donc, que ce soit les États-Unis, tout le monde occidental était au courant. Vous vous imaginez qu'on n'est pas resté les bras croisés parce qu'on sentait bien qu'on allait être massacré. Mais personne ne nous croyait.
Mais depuis le début des années 90, il y avait en même temps un processus politique, une recherche d'ouverture du régime, le multipartisme, et puis ce processus de négociation à Arusha. Pendant cette période-là, qu'est-ce que vous pensiez que...
On a essayé de fuir. Moi, personnellement, avec ma famille, on a essayé de fuir, on a pris la voiture. On a été ramené de la frontière dans la ville de Kigali en disant les Tutsis, de toute façon, vous fuyez la paix. Donc, pour vous dire que nous, on n'était pas restés les mains croisées, mais on était dans un étau par les gardes frontières.
D'accord.
On n'avait pas droit de traverser. Ceux qui traversaient, c'était vraiment en cachette et parfois, ils tombaient dans des rivières. On n'en parle pas. Mais
alors,
on a essayé.
Vous-même, pour le rappeler, vous avez été caché par une personne pendant plus d'une semaine. Hein, vous avez été dans un petit cagibi, dans un petit réduit, ce qui vous a sauvé la vie. Et vous utilisez le terme de juste. Et les justes, il y a une connotation historique, c'est naturellement la Shoah, ceux qui ont caché les Juifs. Est-ce que ce génocide s'apparente aux autres génocides du XXe siècle?
Pour moi, il ne faut jamais comparer les génocides parce que ça reste un génocide. Peut-être les moyens utilisés, peut-être certains facteurs, mais qui amène à une seule chose, c'est l'extermination. Et j'utilise ces mots parce que il était interdit de sauver même un bébé tout pendant le génocide parce que c'était un serpent, c'était un cafard, ce n'était pas un enfant. Alors que certaines personnes aient sacrifié leur vie pour sauver d'autres, ce n'était pas donné. Si tous les Hutus du Rwanda avaient fait la même chose, il n'y aurait pas eu de génocide. Mm-hmm. Comme s'il n'y avait pas eu de Hutus qui ont eu un cœur humain, il n'y aurait pas eu de survivants.
Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez aujourd'hui, notamment au travers de votre travail dans la Commission nationale, que la mémoire ou l'œuvre accomplie par les justes est reconnue à sa juste valeur ou pas?
C'est reconnu parce que même l'État leur donne des médailles. Et moi, je viens de mettre sur pied une association pour la défense des justes du Rwanda. Mais peut-être que ma façon de voir les justes ne sera pas la vôtre. On va voir.
Mais au moment des célébrations, il y a un certain nombre de critiques qui ont été émises à l'égard du régime du président Kagame, notamment celle de vouloir à la fois célébrer, marquer cet événement et tourner la page, passer à autre chose. On a dit cette loi qui considère qu'il n'y a plus de Tutsi ni de Hutu, mais seulement des Rwandais. Un certain nombre de victimes estiment également qu'on les oublie, qu'ils n'ont pas suffisamment la parole. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques?
Chez nous, on dit, quand on n'a pas d'insulte à donner une vache laitière, on dit qu'il a un groupie. Donc, pour vous dire, comment est-ce que le Rwanda peut effacer le génocide d'un revers de la main, que ce soit le président Kagame, que ce soit quelqu'un d'autre? On est là, sont les nôtres qui ont été exterminés. Et nous sommes là comme les survivants. Nous avons des associations au niveau national. Et quand on prépare une commémoration, nous participons à cette commémoration. Donc, je ne comprends pas comment le Rwanda peut effacer comme ça la mémoire du génocide. Et d'ailleurs, si le Rwanda osait faire ça, il n'y aurait plus de Rwanda. C'est l'histoire d'un peuple. On ne peut pas effacer comme ça l'histoire d'un peuple, parce que ce n'est pas une histoire des Tutsis ou des Hutus, c'est une histoire des Rwandais. C'est vrai que la carte d'identité ethnique est supprimée. Et ce qui est magnifique pour nous, que le président Habyarimana avait refusé, qu'il disait qu'il faut être fier de ce que l'on est, quand les uns se faisaient massacrer pour ce qu'ils étaient.
Mais au fond d'eux, chaque Rwandais sait ce qu'il est.
Bien
au fond
sûr.
Lui-même, c'est une question d'identité, pas seulement de carte d'identité.
Ce n'est même pas une question d'identité, c'est une question de lavage de cerveau pour nous mettre les ethnies dans la tête, alors que nous parlons tous une même langue, nous avons une même culture. Nous croyons tous à Imana, Dieu de Rwanda, avant la colonisation avec le christianisme. Donc, c'est artificiel. Pourquoi continuer à vivre dans l'artificiel?
Avant le génocide, vous avez à un moment donné été sage-femme. Et il y a l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop qui explique que c'est peut-être la continuité, mais vous êtes vouée à obtenir l'accouchement de la vérité. Vous êtes dévouée à cette tâche. Comment est-ce que vous y prenez très concrètement? Vous allez voir directement les bourreaux. Expliquez-nous quel est votre rapport avec les gens qui ont été les massacreurs.
Depuis 1998, j'ai commencé avec un photographe belge, Alain Kazniarakis, à aller à la rencontre des Rwandais. Pourquoi? Parce que j'avais passé une nuit sans sommeil, je me posais des questions, je me demandais comment les assassins pouvaient vivre et dormir normalement après avoir massacré les bébés. Comment est-ce qu'on peut approcher sa femme après avoir violé une autre femme? Pas par envie, mais uniquement par torture sexuelle. Donc, je ne comprenais pas comment ils vivaient après le génocide. Et parfois, je pensais à tort que les autres rescapés avaient pu oublier et mener la vie comme si de rien n'était. Et surtout, je me demandais si réellement, à part mon Emmanuel, s'il y avait eu autre ou tout qui avait fait.
C'est la personne qui vous a sauvé, cette juste dont vous parlez, cette femme qui vous a caché dans une soupente.
Voilà. Donc, je pensais qu'elle était seule. Et les autres avaient tous tué. Je suis allée à la recherche de cette vérité-là que les gens parfois n'aiment pas beaucoup entendre. Donc j'ai écouté tout le monde.
Et qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse? Qu'est-ce que ça
la
produit?
La blessure pour tout un peuple. Les blessures du silence.
Vous me dites que les victimes sont blessées et les génocidaires sont blessés aussi.
Aujourd'hui, nous avons même les crises de traumatisme chez les assassins, comme chez les enfants qui sont nés après le génocide. Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter.
Et comment est-ce que cela est pris en compte dans le Rwanda d'aujourd'hui? Comment est-ce que cela est traité très concrètement, ce problème-là?
Nous avons des gens qui aident dans le traumatisme.
Vous êtes vous-même membre de la Commission nationale pour la lutte contre le génocide. Comment est-ce que vous opérez dans cette...
Je suis son employée et je travaille, je suis conseillère pour le plaidoyer pour les rescapés du génocide. Mmh. Donc, je vais à tous les sujets, les terres, la santé, la justice. Je dois suivre pour voir, par exemple, si la justice se fait vraiment
pour les victimes. Dans ce travail, qu'est-ce qui vous a particulièrement apporté une satisfaction dans le sens de la recherche de la vérité? Qu'est-ce qui vous permet de dire que le Rwanda a changé, a évolué, ou au contraire, est-ce que finalement ça tient parce que le régime tient et c'est un régime fort? Est-ce qu'il y a toujours un risque de génocide, de vengeance, de retour aux violences?
Pour moi, il n'y a pas de risque de génocide au Rwanda plus qu'il y en aurait en France. Parce que, de toute façon, c'est toujours la tolérance qui peut faire vivre un peuple. On est différent, mais on a plus de choses en commun que différemment.
Non, parce que, excusez-moi, pour compléter la question que je vous ai faite, Yolande Mukhanasana, vous nous dites qu'il y avait eu, avant le génocide, il y a 20 ans, des tueries, des exactions avant. Vous dites, compte tenu de ce qui s'est passé, il y a une réconciliation qui rend aujourd'hui hautement improbable la survenance à nouveau de drames de cette nature. Il n'y aura plus de tueries de cette nature aujourd'hui au Rwanda.
Il ne peut pas y avoir, personnellement, je peux me tromper, mais je ne crois pas, il ne peut pas y avoir encore un génocide au Rwanda. Parce que quand on voit la souffrance de tout un peuple, les assassins n'ont rien gagné, les victimes n'ont rien gagné, nous sommes tous des perdants, on s'est rendu compte. Alors on essaye d'évoluer, on essaye de faire revivre notre nation comme une vraie nation.
Il y a beaucoup de questions que nous allons vous poser dans la deuxième partie de cette émission, notamment sur la mémoire et donc sur les jugements. Les génocidaires, ou réputés tels, pour l'essentiel, sont jugés au tribunal pénal international, en dehors du Rwanda, que ce soit à La Haye ou dans des capitales occidentales. Est-ce que c'est plus sain de juger les hauts responsables de génocide en dehors de Kigali et du Rwanda?
Et dans quel but, justement? Parce que pour moi, juger les assassins en dehors de leur pays, c'est limiter les victimes et c'est limiter les témoins à les témoigner.
Mais la justice rwandaise avait les moyens de juger sereinement ces génocidaires?
En tout cas, nous avons jugé plus que le tribunal pénal international parce que nous avons jugé presque 1 million de personnes.
Avec les
gachachas.
Maintenant, on apprend en France qu'il va y avoir l'ouverture d'un nouveau procès. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un objet tout de même de satisfaction pour vous? Qu'il y ait des plaintes qui aboutissent en France?
Moi, je vous assure, c'est personnel, ce que je veux dire. J'y croirai après. Parce que je me souviens comment j'ai toujours essayé de relancer la France depuis 20 ans. Ça n'a rien donné. Donc j'y croirai après.
Relancer sur quel thème, dans quel domaine? Qu'est-ce que vous attendiez
de la justice? Moi, si j'étais un assassin, je me réfugierais en France. Voilà. Donc nous considérons là.
Alors c'est une critique que vous adressez à la France, où des génocidaires sont jugés, ont été jugés. Nous en reparlerons. C'est la pause de l'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. On vous retrouve dans 2 minutes.
Bonjour à tous. Le pape François poursuit son pèlerinage au Proche-Orient. Il est à Bethléem, en Cisjordanie. Il vient de célébrer une messe devant des milliers de fidèles, matinée riche en gestes symboliques et paroles fortes. Le souverain pontife a rencontré le président palestinien, Mahmoud Abbas. Il a affirmé, je cite, que le courage et la paix s'appuient sur la reconnaissance de la part de tous du droit de deux États à exister. Il a aussi appelé